Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour Alice, bonjour et Tom en régie. Et bonjour à notre nouvel invité, Benjamin Reverdy, responsable de la galerie d'exposition du domaine départemental de Pierre-Vive.
Bonjour Laura.
Et bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, comme dans chaque épisode, à chaque nouvel invité, on va faire un petit tour d'horizon en deux parties. On va parler de ton parcours dans un premier temps et après on parlera un peu de ton lien avec l'art et notamment de la galerie d'expo de Pierre-Vive et des projets qu'on a menés avec Line Up et toi. Parle-nous un petit peu de toi succinctement. comment t'es arrivé à Pierre-Vive, au domaine départemental? Quel a été un petit peu ton parcours, Benjamin?
Alors moi, personnellement, je viens plus de l'animation populaire et des études en sciences de l'éducation. Donc, comme tout jeune, je me suis un peu cherché. Et puis, avec mes concours d'animation, quand Pierre-Vive ça a ouvert, j'ai postulé, j'ai été pris en tant que médiateur culturel. Je suis maintenant responsable. Mais voilà, c'était fantastique d'être à l'ouverture d'un bâtiment.
Dès le départ, en fait.
Dès le départ de Pierre-Vive, okay. Un an avant que ça ouvre, on a été une paire à être recrutés. Et du coup, voilà, j'avais très envie de travailler avec la population pour l'accès à la culture, à la pratique culturelle. Donc voilà, Pierre-Vive, c'est un lieu qui est fantastique. Et puis quand le conseil départemental a décidé de la gratuité, voilà, c'était fascinant de rentrer dans un lieu où la porte était ouverte pour le public, où on a amené de la curiosité, on a amené de l'ouverture d'esprit. Et voilà, après, je suis devenu responsable il y a maintenant 4 ans. Et du coup, voilà, c'est un autre délire, j'ai envie de te dire. Mais...
ça allait de pair, en fait, avec les valeurs que tu avais, toi. Enfin, le côté gratuité, accessibilité, tout ça.
Oui, voilà. Et puis même, j'ai envie de dire, la fonction publique, dans le sens noble du terme, voilà, être... un agent, faire respecter les valeurs, promouvoir aussi un esprit, mixer ça à la culture, à l'accès à la culture. Voilà, c'était, je trouve, bien sûr j'y travaille, mais je trouve quand même ce lieu assez passionnant. On vient pour une expo, on voit un film, on découvre des archives, on fait des jeux de vidéo. Voilà, c'est multiple, moi je trouve que c'est une œuvre culturelle qui est unique aussi, quoi.
Parce que pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est Pierre-Vive, c'est les archives, mais c'est aussi la galerie d'expo. Enfin, c'est un lieu, comme tu dis, multiple. Il se passe quand même vachement de choses, mine de rien.
Voilà, c'est un lieu hybride. Alors, pour le faire court, il y a donc les archives départementales de l'Hérault, donc avec tout ce qui est recherche d'archives, mais aussi salle de lecture, ateliers, conférences. Mm-hmm. Donc, c'est sur des thématiques hyper larges. Donc là, il faut juste s'intéresser, avoir la curiosité. La médiathèque départementale, donc tout ce qui est le prêt sur le territoire, et la médiathèque de consultation sur place, donc le lieu hyper agréable. La galerie d'exposition, un autre lieu d'exposition qui est le balcon, un espace jeune citoyen, un amphithéâtre. Donc voilà, il y a un programme, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, nous, on offre culturellement, enfin le département offre culturellement une grosse proposition artistique et culturelle. Maintenant, c'est aux gens à s'en saisir. Nous, on fait le max pour que les gens aient accès à cette culture pour tous qui nous tient à cœur.
On vous encourage à aller à Pierre-Vive parce que justement, la gratuité, l'accessibilité, je trouve que c'est des choses qu'il faut mettre en avant parce que c'est souvent ça le frein au déplacement des gens dans des lieux de culture. C'est le tarif, c'est le fait qu'on ne se sente pas forcément toujours à sa place dans des lieux comme ça. Et la programmation large de Pierre-Vive fait que je pense que vous trouvez à chaque fois... un fil à tirer avec chaque public, quoi.
Il y a des expositions donc qui sont de 4 mois, donc il y a la médiathèque, les archives essayent de coller à cette thématique, mais ils ont chacun leur propre mission. Donc oui, ça fait une palette hyper large. La gratuité, c'est sûr, c'est c'est hyper intéressant parce que maintenant, à l'heure actuelle, ben voilà, amener les gens dans des lieux de culture, c'est pas facile. J'entendais à la radio il y a pas longtemps qu'il y a moins de 10% de la population en France qui allait voir une exposition l'année passée.
Ah ouais, c'est peu.
Donc voilà, ça veut dire on n'a pas besoin d'expliquer. Puis après, voilà, il faut. Donc la gratuité, après, donc, c'est la collectivité publique qui, voilà, qui le finance avec leur budget. Mais des fois, il faut. Ben, des fois, c'est payant pour d'autres lieux. Mais nous, voilà, c'est le parti pris de la collectivité. Et pour nous, c'est en tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est ce qui m'a intéressé de m'engager, puisque quand on fait un travail qui nous passionne, voilà, j'ai envie de dire, on met son cœur et un petit peu beaucoup de choses dedans. Donc voilà, on fait le max pour les gens. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus de lieux comme ça à mon époque. Mmh. Voilà, j'ai 40 ans. Il y a 20 ans, il y avait moins d'offres culturelles. Alors, on parle des villes, mais il y a aussi les campagnes. Donc voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Comment on amène la culture aux gens et comment les gens viennent à la culture. Voilà.
C'est, bah, du coup, tu réponds un petit peu à la question que j'allais te poser. Pourquoi Pierreville ? Enfin, tu cherchais... un lieu dans lequel t'investir, enfin dans lequel...
Déjà, je cherchais du travail.
Déjà, tu cherchais du travail, bon, c'est déjà un bon argument.
Non, j'avais un travail, mais on va dire qu'il me passionnait moins. Donc voilà, passer des concours, et puis je suis quelqu'un d'ici, donc je savais que c'était dans les clous ce bâtiment. Et puis voilà, d'avoir été pris, d'avoir été à la genèse, d'avoir été à l'ouverture, d'avoir... vu passer les artistes, les décideurs aussi, puisque les gens changent. Donc voilà, c'est hyper formateur.
Les gens changent, mais toi, tu restes.
Oh. Non, mais tout a une fin aussi, quand même.
Mais ça non, fait... t'es très bien
non,
là-bas.
Je veux dire, au bout de 10 ans, il faut se réinventer tout
oui,
le temps.
Oui, c'est sûr.
Là, on a de la chance parce que voilà, on est soutenu et le conseil départemental fait beaucoup de choses aussi pour la culture, mais
c'est le propre
ne
aussi.
Me porte pas la poisse non plus.
Ah bah non, moi je préfère te porter chance.
Ok, ça va.
Non, mais du coup c'est le propre. Enfin, je trouve que dans ton boulot, en tout cas, le fait d'être responsable de la galerie d'expo, bah t'as quand même un renouvellement, ne serait-ce que par la programmation en fait.
Alors oui, au début à Pierreville, donc moi j'étais pas responsable au début. C'est vrai que c'était tellement varié et divers. Il a fallu un peu recentrer, donc là, on essaye d'avoir plutôt une programmation scientifique historique avec les archives. On va dire pop culture, illustration avec la médiathèque, quand on a fait par exemple l'exposition sur Star Wars et les mythes modernes. Voilà, c'était une réflexion très, très moderne, mais voilà, c'était aussi sur la pop culture. Et puis le créneau maintenant, on va dire art urbain, toute cette thématique qu'on va parler qui est quand même hyper fouillée, hyper large. Mais voilà, maintenant, on a la chance. Donc, ces thématiques, on essaye de les mettre en œuvre, justement, pour le public. Ben, c'est toujours, voilà, hein, on dit souvent, ouvrir le crâne et mettre un petit peu de culture là-dedans. Donc, on offre cette proposition culturelle aux gens. Voilà, c'est à eux de venir, on les attend.
Et de s'en saisir, comme tu dis. En tant que responsable de la galerie d'exposition, quelles sont un peu les grandes missions, toi, de ce poste-là ? Enfin, qu'est-ce que ça implique, en fait ? Prends ta respiration.
Alors, il y a deux facettes, en tout cas moi, dans mon service, parce que bien sûr, je ne suis pas seul, on n'est pas grand-chose, on est une équipe de 7. Donc, il y a toute la partie exposition, donc création, scénographie, marché, transport, texte, lien avec les artistes. Et moi, c'est ma grosse part, lien avec les structures. Donc, ça, c'est passionnant, mais voilà, maintenant, avec la bouteille, on sait qu'on va vers des projets où on a envie que ça se passe bien. Voilà, on a aussi une santé mentale, j'ai envie de dire. Donc, c'est des projets d'expo de 4 mois, c'est un an et demi qu'on les travaille. Et donc, ça, c'est toute la partie pure création, scénographie, commissariat. L'exposition. Des fois, c'est de la création, des fois, c'est de l'adaptation. Donc, ce n'est pas encore la même chose. Et puis après, dans le service programmation pour lequel donc, je suis responsable, il y a tout le volet médiation. Donc là, l'équipe de médiation qui est assez extraordinaire à Pierreville. Donc, c'est toutes les visites, les scolaires, les visites comptées, les escape games, visites 360 degrés. Des
tas de formats.
Des tas de formats pour se réinventer, justement, pour faire des ponts entre le public et l'expo. Voilà, vous venez parler de... Là, en ce moment, on est sur la protection des animaux, des animaux en voie d'extinction. Ben, vous faites un escape game avec vos enfants, puis après, vous passez par la galerie. C'est une façon, chaque fois, de les amener, mais... Voilà, les réseaux sociaux, on a quand même une page Facebook, une page Instagram, le site internet, voilà, YouTube, on n'est pas trop de sets pour mener toutes ces missions.
Tout ça, oui, c'est sûr.
Voilà, c'est de la médiation culturelle, donc là aussi, on essaye d'en donner pour tous les âges, toutes les réflexions. Et voilà, Pierre-Yves, c'est un lieu d'échange, un lieu de réflexion, un lieu où on se promène, où on discute. Et ça, j'ai une grande chance d'avoir une équipe qui fait passer les messages et qui mène leur mission avec voilà, une qualité énorme. Donc voilà, je les salue et je les remercie.
On les salue et on les remercie chaleureusement parce qu'elles font un travail titanesque.
Ouais.
Je t'entendais parler, tu disais il y a la création et l'adaptation d'expositions. Donc ça veut dire qu'il y a des expos que vous créez de bout en bout et d'autres quoi, que vous prenez d'un lieu et que vous adaptez à Pierre-Vif, des expos existantes.
Exactement, okay. Bah, deux exemples d'expos qu'on vient de faire. Donc on a fait Aurel, donc le dessinateur de presse, mm-hmm. donc journaliste, mais voilà, qui fait énormément de choses. Donc là on a créé l'expo de bout en bout avec lui. Donc on a imaginé, ben, c'est souvent ça part du propos, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qui c'est ses souhaits, et puis nous, dans notre lieu, techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire mm-hmm. pour donner de la variété, de l'image, du dessin, de l'original, de la vidéo, du son. Donc là, on crée tout de bout en bout, on avait fait une bande-son avec des artistes, bon, c'était vraiment super. Et puis par exemple, quand on a fait l'exposition sur Lewis Trondheim, donc le dessinateur de BD donc montpelliérain, il avait eu... une expo qui avait été faite à Angoulême, à la cité de la BD ouais. D'Angoulême. Donc là, c'est des partenariats avec une structure, donc c'est des portes d'entrée qui sont mmh. énormes pour nous. Et là, donc, on travaille avec un commissaire d'expo, avec l'artiste, et on réadapte
une exposition
déjà expliquée. Bon, c'est pas moins de travail de réadapter,
non.
Mais c'est des choses différentes. Donc,
la réflexion n'est pas la même.
La création, c'est long. Il faut que ça colle vraiment avec l'artiste. Donc voilà, on essaye d'avoir ces deux pans. Donc,
Oui, parce qu'après même l'adaptation, l'expo, tu l'as vue dans un lieu. Elle a été créée pour ce lieu et après, tu l'adaptes au tien. Il faut la repenser aussi, j'imagine. Donc, ce n'est pas de la création, mais il y a quand même un boulot non négligeable derrière, quoi.
Après, ce qui est intéressant avec l'adaptation, c'est qu'on va travailler avec des grosses structures. Donc, on prend leur savoir-faire. La cité d'Angoulême, c'est énorme pour nous. Mmh. Voilà, donc les originaux, les contacts qu'ils ont. Donc, on travaille autour de tout ça. Voilà, nous, on essaye de trouver le thème qui est intéressant. On a des comités de direction qui valident les projets artistiques. Et puis après, nous, on conseille sur essayer de... Que le travail entre les personnes se passe bien, puisque un an et demi pour une expo, c'est long.
Ouais, c'est long, mais c'est nécessaire.
Exactement.
Je parle en connaissance de cause.
Il faut que ça se passe bien, du coup.
Et ouais. Et puis ben là, enfin, quand t'as un artiste, je pense que bon, je sais pas si ça prend autant de temps que quand t'en as plusieurs, mais la gestion. C'est pas la même, n'est-ce pas?
Quand on fait le projet au début, il faut être quand même bien au clair sur où on va pendant un an et demi. Ça, c'est on est deux à faire ce travail à Pierre-Vive. Voilà, on pèse le pour et le contre. Et puis si le projet nous emballe, et ben voilà, on
bah vous y allez quoi?
On y va peut-être baisser, voilà.
Eh oui, c'est la passion.
La passion.
Alors, bah, on glisse un petit peu vers la deuxième partie de l'émission. Toi, Benjamin, en dehors de ton poste, de ton travail à Pierre-Vive, tu aimes l'art, tu as un attrait pour ça. Personnellement, qu'est-ce qui t'a attiré, quel pied tu as mis, comment ça s'est passé, en dehors de Pierre-Vive, j'entends avant que tu arrives à Pierre-Vive, tu avais déjà cette curiosité pour l'art, pour l'art urbain peut-être même particulièrement.
Oui, les deux, la photo, l'art urbain, la sculpture, bon, tout ce qui concerne la création, ça me passionne. Mm-hmm. Voilà, que moi, le but de perso, hors de mon travail de responsable, c'est amener les gens à la pratique, à la regarder, à la comprendre. Mais si on arrive à faire de la pratique culturelle, comme on pourrait faire le sport, c'est hyper important. Voilà, mm-hmm. c'est deux piliers pour moi qui concernent l'évolution aussi de l'individu. Donc voilà, moi, à titre très perso, j'ai toujours été attiré par les contre-cultures. Voilà, ces cultures populaires qui naissaient de volonté, de liberté, de volonté d'exister. Donc que ça soit la culture de rock alternatif quand j'étais tout jeune, mm-hmm. puis le punk, puis c'était le début de la musique électronique. Donc c'est tout ça m'a passionné. Et du coup,
tout ce qui
après,
est un peu en marge, quoi.
Oui, mais la marge crée aussi l'intellect, j'ai envie de dire. Et tout arrive dans nos sociétés après. Donc, c'est transformé, c'est mâché, c'est avalé. Ça, c'est un grand débat. Mais du coup, la culture urbaine, ben oui, ça m'a passionné. Et puis voilà, quand j'ai voyagé, j'ai commencé à regarder les villes et à les découvrir par ce prisme.
D'accord.
Donc, au grand... dame de ma compagne des fois, mais quand je l'ai amenée à Londres, je me retrouvais dans les fins fonds de Shoreditch
Eh oui.
À faire des découvertes. Kreuzberg à Berlin, il faut quand même y aller pour le voir. Le fin fond de Brooklyn, se retrouver dans des endroits. Mais ça fait comprendre le quartier, rencontrer les gens. Voilà, et l'étude de la ville qui m'a toujours intéressée. Voilà, maintenant, on est dans la gentrification des villes. Oui, donc, voilà, tout ça, ça m'a intéressé. Puis après, avec le poste à Pierreville, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à théoriser, j'ai commencé à écrire, à rencontrer les artistes. Donc, voilà, je commence à avoir un petit bagage. Donc, tout ça m'a intéressé. Mais c'est sûr que dans la création, tout ce qui amène à la création, voilà, le hip-hop m'a passionné, la musique, la chanson alternative, tout ça... Tout ce qui était, voilà, cet élan de création et de liberté, c'est quelque chose qui m'a passionné. Donc, voilà, je suis rentré par ça, au début le graffiti, puis ce vaste mouvement de l'art urbain qui est difficilement maintenant explicable. Mais voilà.
Oui, qui englobe beaucoup de choses. Et quand tu es arrivé à Pierreville, tu avais un peu déjà... tu te disais, est-ce que j'espère pouvoir... participer, quand tu étais rentré, tu étais médiateur culturel, du coup, tu te disais, est-ce que j'espère pouvoir mettre mon petit grain de sable dans...
Ouais, j'ai essayé de le mettre. Après, on est une équipe, il y a plusieurs personnes. Après, voilà, quand on fait de la programmation, mais ça, c'est tous les lieux, voilà, est-ce qu'on fait pour faire connaître des gens? Est-ce qu'on fait pour faire rentrer du chiffre? Les gens qui sont payants, ils ont besoin aussi de ce chiffre-là. Nous, c'est gratuit, donc on n'a pas besoin de ça, mais... Voilà, est-ce qu'on peut... c'est important que le monde fréquente les expositions. Donc non, j'ai essayé de mettre un petit peu mes idées là-dedans. Mais après, il faut savoir, il y a 10 ans, l'art urbain, ce n'était pas l'art urbain d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, non, voilà. C'est clair.
Et encore, il y a 20 ans, quand je te parle, quand j'étais au fin fond de New York et tout ça, c'était encore différent.
Eh oui.
Donc non, c'est passionnant. Et puis bon, moi, je suis responsable depuis 4 ans, mais on a quand même fait, avec Jérôme Katz, qui s'occupe de Space Junk à Grenoble, à Lyon-Bayonne, on a fait quand même une expo sur OB, c'est 215. Voilà, là, il y en a une qui arrive, on en parlera tout à l'heure, mais donc c'est bien de promouvoir.
Tu as réussi à faire rentrer, finalement, l'art urbain. Alors, on englobe là-dedans un peu tout dans l'art urbain. Enfin, c'est un peu fouillis comme mot peut-être aujourd'hui. Mais bon, tu as réussi à faire rentrer des artistes comme ça dans un lieu culturel, dans une institution comme Pierreville. Comment ça s'est passé? Quel a été le retour de... Quand tu l'as proposé, qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce que ça a été un oui déjà d'emblée ou ça a été un peu, il fallait un petit peu batailler?
Alors, au début, c'est pas moi, j'étais pas responsable, donc c'est pas moi qui ai bataillé. Moi, je vais parler à mon nom et à ce qu'on a fait depuis que je suis responsable. C'est une grande question, faire rentrer par rentrer. Moi, pour moi, l'art urbain, il n'y a pas de question, c'est dans la rue. Voilà, c'est pas, il y a le débat, il n'existe pas. Pour moi, les institutions, c'est minime dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art urbain, dans l'histoire du graffiti. On est une petite part. Et après, moi, je dis toujours, je fais pas rentrer le mouvement. Moi, je vais chercher des artistes qui parlent du mouvement. Après, il y a des artistes qui ne veulent pas, et c'est tout à leur honneur. Il y a des artistes qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas peut-être la caution de représenter ce qu'est le mouvement pour les mettre dans une galerie. Et puis nous, après, il y a quelque chose un peu de différent à Pierreville, c'est que déjà, il y a la gratuité. Voilà. Est-ce que ce lieu, je me pose souvent la question, finalement, il n'était pas fait pour parler de ce mouvement? Quand on fait venir des artistes, le fait qu'on fasse de la médiation, qu'on fasse venir tous les publics, que ça soit gratuit, ça leur plaît. L'artiste d'art urbain, l'artiste du graffiti, la première phase, c'est le lieu. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce lieu? Comment on va réfléchir? Voilà, nous, quand les gens ils viennent à Pierreville, il y a la force du lieu. Le lieu, il est hyper imposant. Après,
dans la galerie,
dans la white zone, les murs blancs ou les murs noirs, mettre des toiles, pas mettre des toiles, mettre des cimelles qui seraient en mesure. Nous, on essaye de mettre des haut-parleurs pour les artistes, d'être vraiment une mise en lumière pour parler de ça. Mais on n'est pas là pour faire la police, de dire l'un a le droit, l'autre pas le droit. C'est pas à nous de le dire déjà. Nous, voilà, c'est déjà peu d'expositions d'art urbain. C'est 4, 5, 6 depuis 10 ans.
Oui, mais c'est déjà plus que beaucoup de lieux qui ne donnent pas cette place-là.
Mais je te dis, je pense que le fait d'avoir ce lieu, d'avoir la gratuité, voilà, la gratuité dans l'art urbain, c'est hyper important.
Ça va de pair avec ce qu'est l'art urbain. Enfin, il est dans la rue, tu ne payes pas pour voir une œuvre dans la rue. Donc c'est vrai que c'est en phase avec ce que propose Pierre Vive. Tu peux aller voir une expo d'art urbain, elle est gratuite comme tu pourrais aller voir des œuvres au quartier méditerranéen par exemple.
Et nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est une explication, un regard, une discussion sur des artistes, des lieux, des techniques, des démarches, des valeurs. Mm-hmm. Y a des artistes qui ont tout ça, il y en a qui ont les techniques mais pas les valeurs, il y en a qui ont les valeurs mais pas la démarche. Donc voilà, moi, quand j'avais 25 ans, que je te dis que je voyageais les villes, il n'y avait pas... Maintenant, Instagram, tu le mets, j'ai tout le monde entier du street art, je sais tout. Avant, il fallait y aller, chercher les rues, rencontrer, demander. Voilà, c'est... le monde a changé.
C'est un travail d'archivage.
Et le mouvement, il a changé aussi.
Fatalement,
On essaye d'expliquer ça, mais à travers les artistes qu'on choisit, on essaye de parler de tout ça, justement, d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans. Ouais. Des valeurs, des techniques, de la démarche, du lieu. Voilà, c'est hyper protéiforme comme mouvement. Il y a de tout maintenant. Et nous, on essaye à notre petit niveau de mettre une petite lumière sur ce coin de ruelle un peu...
Un
peu dans l'ombre, voilà.
Et du coup, avec Line-Up, on est ravis d'avoir pu participer à cette petite démarche que tu dis que tu as à travers deux expositions en 2020. L'exposition XYZ avec les artistes Mathieu Lucas, Enaer et Oz. Et plus récemment, en 2022, Molière 2022 de la scène à la toile avec plus d'une dizaine d'artistes qui se sont emparés des œuvres de Molière et qui ont réalisé une œuvre, une interprétation très personnelle et artistique de l'œuvre qui s'était accaparée. C'était une expo géniale. Enfin, moi, je le dis toujours, mais ça reste un des projets que j'ai... Depuis que je travaille chez Line-Up, c'est un de mes projets préférés. C'était quoi le défi dans cette exposition Molière 2022?
Alors, déjà, pour parler de la première, XYZ, il faut se remettre dans le contexte. On était pendant Covid. Oui. On s'est fait annuler, donc, Vils.
Oui,
les camions sont restés à la frontière. Covid fermé, lieu culturel fermé. Donc, nous, le but, là, c'était de faire vivre la culture. C'était de la survie. Donc, on voulait rester dans la thématique de l'art urbain. Donc, c'est pour ça qu'on est venu la première fois voir Line-Up, parce qu'il fallait aller vite et il fallait de la survie. Et peut-être que cette expo nous a permis de faire une première rencontre pour pouvoir enclencher l'expo sur Molière. Molière, on nous a demandé de réfléchir à quelque chose pour fêter les 400 ans de sa naissance. Donc on s'est plongé éperdument dans cet auteur passionnant. Et puis le fait de la troupe, le fait de ne pas avoir son nom, alors ou pour ne pas faire de tort à sa famille à l'époque.
Oui.
Mais maintenant, les artistes changent de nom aussi.
Changent de nom et reviennent parfois à leur vrai nom.
La troupe, le fait qu'il est interdit, le fait qu'il ait été censuré, le fait qu'à l'époque, faire du théâtre, c'était hyper mal vu. Bon, moi, j'ai tout de suite vu le rapprochement avec ce mouvement d'art urbain. Donc on a essayé d'être malin, on s'est rapproché de Line-Up pour profiter de leur qualité. Mm-hmm. Eux, ils connaissent les artistes, ils savent se les gérer aussi, parce que la gestion d'un artiste, mais ça se passe très bien et tout ça, mais c'est un travail à part entière. Ça, les gens ne s'imaginent pas trop, donc il faut faire le mieux pour eux. Nous, on est là pour faire le mieux pour eux. Il faut qu'eux fassent aussi le max pour nous. Donc voilà, on a fait notre petite liste. On s'est dit avec Line-Up qu'est-ce qu'on voudrait. Donc voilà, un mix de techniques, de démarches, de valeurs. On a vraiment
très varié.
Et puis finalement, quand on rentrait, on pouvait parler de Molière, on pouvait parler du théâtre, de l'époque, des artistes maintenant, de ce mouvement justement. Il y en a qui venaient de la rue, d'autres qui étaient moins présents dans la rue, mais ça te permettait justement d'en parler de ça. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est un artiste aujourd'hui, même pas de d'art urbain, mais c'est une question qui est récurrente quand on parle du mouvement, quand on parle de Molière, il a laissé une trace immense au stabilo.
Et indélébile.
un peu comme certains de nos artistes laisseront, et j'en suis persuadé, dans des quelques années, des traces indélébiles et majeures dans l'histoire de l'art en général. Donc c'était un beau projet, pour le coup, là c'était une construction, c'était une création avec un propos, et voilà, l'œuvre, pour ceux qui sont venus, ou même toi, l'œuvre de Diffuse, avec dans ce grand, théâtre, dans ce grand rideau avec la troupe, c'était fantastique, et ça permettait aussi de faire parler, peut-être, Molière, c'est quand même, il ne faut pas se leurrer, c'est pas facilement accessible non plus pour le commun des mortels,
Bah, ça donnait une porte d'entrée différente, voilà, en fait,
puis,
à Molière.
Plus le travail de la médiation derrière, les ateliers, ouais, etc. Ben voilà, le pari était gagné quand...
C'était largement gagné. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. On va du coup aborder l'exposition à venir à Pierre-Vive. Exposition événement, si vous voulez mon avis. raconte-nous, en quelques minutes, soit bref, attention. Hein.
C'est dur.
C'est dur, je sais. L'expo, elle va faire le buzz en 2024, je suis sur Lek et So What.
Voilà, donc... On a la chance d'accueillir du 28 mars à fin juillet donc, l'expo In Retrospect de Lek et So What. Donc, voilà.
So What qui a fait une œuvre pour Montpellier.
Exactement.
Pour Molière 2022.
Voilà, c'est d'ailleurs là qu'on l'avait rencontré. Voilà. Et c'est là aussi qu'on a pu peut-être imaginer quelque chose
ensemble.
Avec eux. Donc cette expo, elle existait à Paris, à Rue de Malmaison. Elle s'appelait Duographie et c'était, voilà, le... Ils retracent leur parcours à travers 5 projets. Donc, Lek et So What, ce qui est passionnant dans le mouvement de l'art urbain, c'est qu'ils représentent le début du graffiti, le milieu, la fin, ce passage aussi un petit peu dans les galeries, la vente, et puis ils sont toujours hyper présents dans la rue. Ça veut dire que dans l'expo, par exemple, en 2010, ils investissent 40 000 m² d'un ancien supermarché désaffecté en plein Paris, et ils amènent 40 graffeurs, 40 artistes d'art urbain, sans le dire à personne, et il crée le mausolée sur les ruines un petit peu consuméristes d'autres mondes, mm-hmm, et avec une création artistique et poétique dedans. Ça n'a jamais été ouvert, peu de gens l'ont vu, ils en ont fait des livres et des films, et nous, on retrace ce projet. De là, ils passent au Palais de Tokyo qui leur dit « on veut aussi faire quelque chose avec vous », et là, ils investissent voilà, les sous-sols, tous les lieux un petit peu inaccessibles du palier. Comment rentrer dans une institution, mm-hmm, mais garder les valeurs d'un mouvement qui le représente, ouais. Et ben, le Palais de Tokyo... Ils ont réussi à faire ça, le projet a continué. Pareil, le Centre Pompidou les appelle, ils font une œuvre devant le Centre Pompidou, donc à l'extérieur, mm-hmm, où les gens vont venir peut-être dessiner, taguer, graffer dessus. Et c'est ce mix, comment la rue a avalé leur œuvre, et c'est ça qui fait l'œuvre finale. Si tu me laisses 2 minutes encore, donc le projet
justement.
Du tunnelier où sur la ligne, ils font un typo sur le bouclier d'un tunnelier quand ils creusent la ligne 14 de Paris, qui se pour rappeler le côté éphémère et urbain, subway art, voilà, de ce mouvement. Voilà, il va se détruire au fur et à mesure que le tunnelier creuse la ligne 14, donc des projets assez fous. Des projets assez incroyables. Et puis, on a le prêt d'une œuvre au Centre Pompidou, du Centre Pompidou qui a été fait par le Palais de Tokyo. Et c'est la première œuvre issue de ce mouvement, du graffiti de l'art urbain, qui rentre dans des collections. Donc là aussi, ça permet, entre le début, Lek, Stalingrad, les terrains vagues, comment ils se sont rencontrés, l'urbex des friches abandonnées, puis passer d'une façon hyper originale dans un lieu institutionnel, mm-hmm, puis arriver à faire des galeries. Ces deux garçons représentent le mouvement, je leur ai dit, et il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'ils sont passionnants pour ça. Ils sont hyper variés, hyper larges, et puis ils creusent tout le temps, ils cherchent. C'est là qu'il faut que tu m'arrêtes, parce que sinon je vais faire l'expo.
Je t'arrête. Et c'est un parcours qui mérite d'être connu, et ça mérite d'en savoir plus. Et du coup, on vous invite à aller à Pierre-Vive à partir du 28 mars, c'est ça?
Voilà, et un peu avant, on va essayer, c'est pas encore tout à fait calé, mais on aimerait faire une œuvre éphémère aussi sur peut-être la façade. Donc là,
on croise les doigts.
On verra, mais on a vraiment envie que le public, voilà, se...
Ils sont en immersion dans leur...
Oui, et puis la pratique de l'art vivant, voilà, ils sont deux artistes qui portent l'art vivant, on est presque au-delà de l'art urbain, et c'est ça qui est passionnant avec cette expo.
Et c'est sur ces mots qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup, Benjamin, d'être venu au micro de Terrain Vague. Merci, Alice. Et merci à tous et à bientôt.
Merci.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leurs plans, tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.